Déjà, on peut remarquer que la résolution de problèmes, bon, depuis, je dirais, longtemps, hein, on sait que c'est un nœud assez important dans les apprentissages mathématiques. On peut dire qu'elle est encore particulièrement mise en valeur dans les programmes, et en particulier dans la dernière version des programmes, dans lesquels, dès la première phrase, hein, on donne cet aspect assez central à la résolution de problèmes. Et on peut se demander pourquoi. Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette question, mais une manière de l'aborder, eh bien, c'est de remarquer qu'en fait, lorsqu'on résout des problèmes, alors sous-entendu, hein, quand je parlerai de résolution de problèmes, ça veut dire des problèmes à énoncer, c'est-à-dire des problèmes dans lesquels il y a des phrases, on est à la fois dans de la cognition mathématique, parce que bien sûr, on va être centré sur le travail de notions mathématiques, mais en même temps, on est aussi dans la cognition langagière, parce qu'il y a d'autres aspects, il y a des aspects extra-mathématiques qui interviennent et qui conduisent à ce qu'un élève qui est en situation de résolution de problème ou un enseignant qui travaille la résolution de problème est à la fois forcément sur ces deux versants, parce que pour résoudre un problème, eh bien, il y a aussi besoin de s'appuyer sur des représentations qui sont de nature extra-mathématique, qui reposent sur le langage. Alors, intuitivement, on pourrait se dire que, étant donné que ça mélange à la fois des aspects mathématiques et des aspects non mathématiques, ça rend la chose plus complexe. En fait, ce n'est pas forcément le cas, et notamment, on se rend compte que parfois la mise en mots, ça va être quelque chose qui est facilitateur pour un élève. D'accord? Donc cette intrication des aspects langagiers et des aspects mathématiques, ce n'est pas forcément un facteur de complexité. En revanche, il y a une caractéristique qui est importante dans la résolution de problèmes, c'est que du fait de ces aspects langagiers, eh bien, un problème va évoquer des concepts qui sont des concepts qui viennent de la vie quotidienne des élèves et des concepts qui ont été construits, développés, en général en dehors de l'école, et qui sont évoqués par l'énoncé. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand on travaille la résolution de problèmes en classe, eh bien, on est dans une position dans laquelle on peut et ça, c'est on va dire la facette positive. On peut faire bénéficier potentiellement pour les acquisitions mathématiques de connaissances extra-mathématiques qui ont été acquises dans la vie quotidienne. Alors, vous voyez, c'est l'idée, hein, qui est présente dans cette diapositive, hein, que si on reprend les trois premiers points de la diapositive. Hein. Le premier point, c'est aspect cognition numérique et cognition langagière. Deuxième point, c'est l'idée que concepts extra-mathématiques et mathématiques se retrouvent intriqués dans la résolution de problèmes arithmétiques à énoncés verbaux. Et puis, l'idée, qui est très importante notamment dans la progression à rythme école, hein, qu'on va s'appuyer sur des concepts extra-mathématiques pour favoriser le développement de concepts mathématiques. Alors c'est ça qu'on va développer ensemble, hein, pendant tout l'essentiel du temps, donc de cet approfondissement théorique. Et notamment, pour ce qui est du cycle 2, là il y a la question, ben, de comment est-ce que la résolution de problèmes peut venir en appui du sens des opérations. Donc, comment ce que je vous ai dit là, c'est quelque chose qui peut être mobilisé pour développer le sens des opérations. Alors, pour exemplifier, prenons les deux énoncés qui s'affichent à l'écran. Alors, vous voyez que ces deux énoncés, si on doit les observer ensemble, hein, donc le premier, il y a cinq oiseaux et trois vers, combien y a-t-il d'oiseaux de plus que de vers? Et le second, il y a cinq oiseaux et trois vers, combien d'oiseaux n'auront pas de vers? Alors, on reconnaît ici vous voyez, typiquement, on a des connaissances extra-mathématiques qui sont mobilisées. D'accord? On parle d'oiseaux, on parle de vers, on parle de. On pose des questions. On voit aussi que ces deux énoncés, si on est sur le plan des notions mathématiques mobilisées, ben, tous les deux peuvent se résoudre par une soustraction, par l'opération 5 moins 3 égale 2. Et en fait, si on donne ces problèmes à résoudre à des élèves de CP, eh bien, en fait, on va se rendre compte que ces deux problèmes sont de difficultés très différentes, radicalement différentes. En particulier, il y en a un qui va être très facile et un autre qui va être plutôt très difficile. Alors, sans doute, on voit tous que le plus facile des deux va être le deuxième. D'accord ? Et en fait, si on veut des données un peu plus précises, ben vous voyez que le deuxième, il est résolu à peu près par toute la classe. D'accord ? On approche les 100% de réussite. En revanche, le premier, c'est tout à fait différent. Le premier est réussi plutôt par un quart des élèves. Donc là, on est typiquement dans une situation qui est intéressante du point de vue de cette intrication entre les concepts quotidiens et les concepts mathématiques, parce qu'on voit qu'un même énoncé sur le plan mathématique, qui dans les deux cas peut se résoudre par une opération de soustraction, peut donner lieu à des performances totalement différentes pour les élèves. Alors on peut se demander pourquoi, on va l'aborder un peu plus en détail ensemble, le pourquoi, mais en tout cas ça va beaucoup plus loin que simplement se dire, c'est pas simplement une question de familiarité des élèves avec tel ou tel aspect, c'est quelque chose d'un petit peu plus précis. En particulier le deuxième énoncé, en fait, il invite les élèves à se construire une certaine représentation, un certain scénario de la situation, et c'est un scénario dans lequel les premiers oiseaux présents vont chacun manger un ver, et donc il y a une espèce de mise en correspondance mentale qui se construit, et puis une fois que les trois premiers oiseaux ont mangé chacun un ver, on se rend compte qu'il y a deux oiseaux qui sont laissés sans rien à manger. Et donc, cette réponse de deux, elle peut émerger depuis la représentation de ce scénario. Rien de tel n'est possible pour le premier énoncé. Alors, une question subsidiaire qu'on sera... peut-être plus épaulé, mieux outillé pour répondre plus tard. C'est une question subsidiaire. C'est est-ce que lorsqu'on résout le deuxième énoncé, on est en train de faire des mathématiques ? Est-ce qu'on est en train de mettre en œuvre la soustraction ? Ça, c'est encore un autre questionnement. Mais en tout cas, vous voyez qu'en termes de performance, on a cet écart, et cet écart qui peut se comprendre, parce que dans un cas, on a mobilisé des connaissances extra-mathématiques, en l'occurrence que les oiseaux peuvent manger des vers, qu'on a aussi un scénario un peu stéréotypé de partage équitable dans lequel chacun mange un et un seul ver, parce que bien sûr, on pourrait aussi imaginer qu'il y ait un oiseau qui mange tous les vers et que les autres n'aient plus rien, d'accord ? Mais il y a des implicites, bien entendu, qui excluent cela. Alors, un deuxième exemple illustratif. Alors ça, c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment très connu. Vous savez, sur les typologies des problèmes à énoncés verbaux à une étape, qui ont été notamment développés par Gérard Vergniaud en France, dans lesquels on sait en fait que des énoncés pour lesquels une même opération donne la solution peuvent être de difficultés très très variables. Et par exemple, entre ces deux énoncés, donc Paul a 7 billes dans sa poche, il en donne 3 à Jean, combien lui reste-t-il de billes ? Et puis Paul a 7 billes, Jean en a 3, combien Jean a-t-il de billes de moins que Paul ? Eh bien, entre ces deux énoncés, malgré le fait qu'une même soustraction donne la solution, on a à peu près 2 années scolaires d'écart pour avoir la même performance. D'accord ? Autrement dit, pour avoir la même performance que des élèves de CP au premier exercice, il faut attendre le CE2 pour retrouver cette performance au deuxième. Et puis, si on reste sur cet exemple, cela soulève quelques questions. Par exemple, si on est avec un élève qui réussit le premier problème et qui échoue au second, qu'est-ce qu'on peut dire de cet élève par rapport à la notion qu'il a construite de ce que c'est qu'une soustraction ? Qu'est-ce qu'on peut dire également d'un élève qui résout le premier problème par l'opération 7-3 égale 4 et qui ensuite résout le second problème, cette fois en faisant une addition à trous, en faisant 3 plus 4 égale 7 ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on peut conclure ? Qu'est-ce qu'on peut inférer de ça ? Et puis un enjeu sans doute encore plus crucial, hein, d'une certaine façon en tant qu'enseignant, c'est comment guider un élève, comment construire des activités de classe qui font que un élève perçoive que en fait on peut faire une soustraction dans les deux cas. D'accord ? Parce que dès le CP, les élèves arrivent très tôt à voir une soustraction dans le premier cas, mais ce n'est pas du tout la même chose pour le deuxième. Et puis, un niveau encore plus complexe, hein, qui reste une ambition raisonnable quand même lorsqu'on se demande qu'est-ce que ça signifie d'avoir vraiment acquis ou développé une notion solide de ce qu'est une soustraction, eh bien, c'est de réussir à percevoir que l'un comme l'autre de ces énoncés sont deux cas de soustraction. D'accord ? Autrement dit, d'unifier sa perception qui, au départ, pour les élèves, correspondent à des situations, on va dire, radicalement différentes. D'accord ? Parce que dans le premier cas, on est en train de chercher ce qui reste après avoir perdu. Dans le deuxième cas, on est en train de comparer deux situations, de savoir qu'il y a un lien entre les deux, ça ne va pas du tout de soi. Alors, de ce fait, on va, autour d'un de ces idées, on va développer deux aspects de façon importante, hein, ensemble. C'est que la résolution de problèmes, donc on va, comme je vous l'ai dit, hein, il y a l'idée de s'appuyer sur des connaissances extra-mathématiques pour développer des connaissances mathématiques. Et en fait, cela va se réaliser en s'appuyant sur deux aspects. Un premier aspect, c'est en fait un guidage de l'élève dans l'interprétation qu'il va se construire de l'énoncé. Et ce guidage, il repose sur une analyse sémantique de l'énoncé, autrement dit, une compréhension approfondie de ce qui est dit dans l'énoncé, de ce qui est raconté dans l'énoncé. Et en particulier, on voit que de ce point de vue, il n'y a pas une rupture radicale entre les aspects de compréhension tels qu'ils se manifestent dans de la compréhension de texte et puis les aspects de compréhension arithmétique, parce que l'un va être aussi le support de l'autre. Et l'idée, c'est que ces analyses de relations sémantiques vont ensuite pouvoir être le support de reconnaissance, hein, de notions mathématiques qui sont incarnées dans ces énoncés. Et puis, un deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle le recodage sémantique. Et le recodage sémantique, c'est une activité qui vise en fait à faire avancer la compréhension d'un élève en allant à l'encontre de son intuition. C'est-à-dire que parfois, la situation, il y a des éléments de la situation qui orientent vers une certaine conception mathématique, mais celle-ci n'est pas adaptée, ça va amener vers des erreurs. Et le recodage sémantique va initier une autre façon de percevoir le problème qui, elle, est cohérente par rapport aux objectifs mathématiques qui va être pertinente sur le plan mathématique, alors que dans un premier temps, elle ne l'était pas. Et cela donne aussi des clés, des éléments pour introduire les notions mathématiques en choisissant certaines situations qui vont mettre en œuvre des propriétés qui sont pertinentes sur le plan mathématique. Et puis, un autre aspect dont on va parler ensemble, eh bien, c'est l'idée qu'en fait, un même énoncé de problème peut faire l'objet de plusieurs lectures, de plusieurs interprétations. Et que selon l'interprétation que l'on privilégie, on va ou non être en mesure de résoudre le problème ou être en mesure de mettre en œuvre une stratégie qui est adapté à la résolution de ce problème. Alors, je vais dire quelques mots de la question des analogies, parce que c'était d'une part en partie la commande, et puis aussi parce que ça va aider à bien rentrer dans le cadre qu'on va développer ensemble dans quelques minutes. Et j'essaye de faire le lien, on ne va pas y passer beaucoup de temps, mais ça donne quand même un élément, il me semble, important pour faire le lien avec la suite. C'est que lorsque j'ai commencé à évoquer la question de la place des concepts extra-mathématiques qui sont issus de la vie quotidienne, eh bien, en fait, c'est une manière de dire que lorsque un élève en situation de... Lorsqu'on rencontre une notion nouvelle à l'école, eh bien, cette notion, elle est forcément, il n'y a pas d'autre moyen cognitif de le faire, elle est forcément appréhendée à partir de connaissances préalables. Et qu'est-ce que cela signifie, hein, c'est que je pense que c'est quelque chose dont tout le monde est bien conscient, eh bien, c'est que l'élève n'est pas une page blanche dans laquelle s'imprimerait la parole de l'enseignant, mais l'élève arrive avec ses propres concepts, ses propres notions. Et lorsqu'une notion est introduite en classe, eh bien, l'élève va l'interpréter avec ses propres concepts. Et c'est là que l'analogie intervient, parce que comme cette notion est nouvelle pour lui, ce qu'il aura à sa disposition, ce sont des notions qui pour lui seront suffisamment ressemblantes, suffisamment proches pour pouvoir s'appliquer. Et c'est le champ que l'on appelle le champ des analogies intuitives, c'est-à-dire ce sont les manières dont spontanément, lorsqu'une notion est introduite, on va l'appréhender. Alors ce sont des aspects qu'on va voir en détail, hein, mais je le dis juste pour avoir un contexte un petit peu large, hein. Le principe en général de ces analogies, c'est justement de s'appuyer sur ce qui est connu pour faire face à la nouveauté. D'accord ? Donc les analogies ont une valeur adaptative très importante et une pertinence particulière sur le plan scolaire, hein, étant donné qu'il y a justement cette idée qu'on introduit des notions nouvelles, mais ces notions nouvelles, elles sont abordées à travers des connaissances préalables, d'où la place de ces analogies intuitives. Et puis le deuxième aspect, qui est également un aspect important ici, c'est la question du développement conceptuel, c'est-à-dire comment, à partir d'une conception première, d'une certaine conception avec laquelle on est entré dans une notion scolaire, qui correspond aux analogies intuitives, comment cette conception, on va pouvoir la faire évoluer, on va pouvoir favoriser son développement, parce que, bien entendu, tout le monde est informé, hein, de cette question des préconceptions, des misconceptions, des obstacles que vont rencontrer les élèves par rapport à leur représentation initiale. Et donc, une question essentielle, c'est de savoir comment favoriser l'évolution de ces représentations initiales. Et c'est là que va intervenir notamment cette question du recodage sémantique, avec l'idée d'introduire cette fois des analogies non intuitives qui vont favoriser une décontextualisation et une montée en abstraction qui, elle, va être orientée, bien sûr, par la pertinence sur le plan mathématique. Alors, ce cadre, il s'appelle le cadre AS3 parce qu'il est fondé sur trois formes d'analogie intuitive. Et ces trois formes d'analogie intuitive, elles sont nommées analogie de substitution, analogie de scénario et analogie de simulation. Et ce sont en fait trois formes d'analogie qui agissent dans une situation de résolution de problème. Et il est tout à fait intéressant de, lorsqu'on s'intéresse à un problème particulier, de chercher comment se situe ce problème par rapport à ces trois formes d'analogie. Et c'est ce qu'on va faire ensemble, hein. On va ensemble décortiquer ces trois formes d'analogie pour bien être en mesure de les identifier. Ce qu'on peut dire d'elles, hein, je vais bien sûr, ça ne va pas rester que des mots, on va rentrer dans le détail de chacune d'entre elles, mais elles ont des choses en commun. La première, c'est que toutes les trois, elles sont parfois facilitatrices et parfois obstructives. D'accord ? Autrement dit, pour certains énoncés, l'analogie, quelle qu'elle soit, substitution, scénario ou simulation, elles peuvent parfois faciliter la résolution et parfois y faire obstacle. Lorsqu'elles la facilitent, eh bien, la question qu'on va se poser toujours, c'est du coup, est-ce que l'élève aurait aussi réussi sans le soutien de cette analogie ? Et lorsqu'elles font obstacle, ben, la question qu'on se pose, c'est justement comment développer des activités qui permettent à l'élève de réussir la résolution du problème malgré le fait qu'elle fasse obstacle. C'est pour cela qu'elles peuvent être toutes les trois des leviers pour les apprentissages. Et puis, il y a une certaine interdépendance entre ces formes d'analogie, ce qui veut dire que ce n'est pas toujours facile de construire tous les cas de figure possibles. On va le voir plus en détail tout à l'heure. Mais on peut toutefois les isoler les unes des autres. Et on prendra des exemples pour bien le montrer. Alors, à quoi sert ce cadre AS3 ? Ben, il a quelques éléments d'application. Par exemple, c'est un cadre que l'on peut mobiliser pour se prononcer sur la difficulté d'un problème. D'accord ? Donc, si jamais on regarde un problème ensemble et qu'on tente d'appliquer ce cadre à ce problème, normalement, on est en bonne position pour prédire le fait que ce problème sera facile à résoudre pour des élèves ou au contraire, qui va présenter des difficultés. C'est un cadre qui est aussi intéressant pour distinguer les cas qu'on peut qualifier d'expertise apparente, c'est-à-dire des cas où l'élève va avoir une bonne performance, mais une performance très contextualisée, de compréhension plus profonde des notions mathématiques en question. Parce qu'on va voir justement, lorsque ces analogies sont toutes facilitatrices, on a des réussites extrêmement élevées, mais ces réussites élevées, elles sont très contextualisées. De ce fait, ce cadre va aussi être un support lorsqu'on veut construire des évaluations, parce qu'on va se rendre compte que des énoncés peuvent être justement, tels que ce cadre permet de les analyser, soit bien réussis, soit au contraire beaucoup plus difficiles. Et lorsqu'un enseignant construit une évaluation, c'est intéressant pour lui d'avoir ce prisme avec lequel il peut anticiper les raisons pour lesquelles tel problème va supposément poser des difficultés ou non. Là encore, c'est lié à cette conformité avec certaines de ces analogies. C'est un cadre qui, du coup, j'espère que vous serez d'accord que si tous ces éléments sont bien présents, bah, il est utile pour la formation des enseignants. Et puis, il va être utile aussi lorsqu'on veut construire des progressions d'apprentissage. Parce que tout à l'heure, quand je vous parlais de levier d'apprentissage, il y a l'idée qu'on peut s'appuyer sur ce cadre pour développer des progressions d'apprentissage, comme nous l'avons fait pour le dispositif ACE. Alors, tout d'abord, les analogies de substitution. Alors, on va employer ce terme pour désigner le fait que la notion mathématique est perçue par analogie avec une connaissance familière issue de la vie quotidienne. Et pourquoi est-ce qu'on parle du terme substitution ? Parce qu'il y a l'idée que cette notion familière, en fait, elle va se substituer à la notion mathématique dans l'esprit de l'élève. D'accord ? Autrement dit, on va utiliser une terminologie mathématique. Mais cette terminologie mathématique va d'une certaine manière masquer le fait que la notion en question n'est pas la notion mathématique, mais une notion familière issue de la vie quotidienne. Et ce qui va caractériser ces analogies de substitution, c'est leur domaine de validité, parce qu'elles sont partiellement... Elles vont partiellement recouvrir la notion mathématique Et dans ce cas-là, on va considérer qu'on est à l'intérieur du domaine de validité de l'analogie de substitution. Et puis parfois, le recours à ces analogies de substitution va amener à des réponses différentes de ce à quoi conduirait le recours à la notion mathématique. Et dans ce cas-là, on est en dehors du domaine de validité de l'analogie de substitution. Alors on va exemplifier tout ça sur les quatre opérations, arithmétiques. La notion de soustraction, elle évoque un certain scénario, et c'est un scénario en fait assez précis, même extrêmement précis, on va le voir par rapport à toute la diversité des situations possibles de soustraction, et c'est un scénario dans lequel on dispose d'une certaine quantité initiale. Ensuite, il y a un certain événement qui se produit. Cet événement conduit à faire décroître cette quantité initiale et la question porte sur la quantité subsistante. D'accord ? Et en fait, l'analogie de substitution de la soustraction, c'est précisément ça. Ça veut dire, on a quelque chose au départ, quelque chose se produit et on cherche ce qu'il reste. Et une manière un peu plus ramassée de le dire, c'est que... ce sont des situations dans lesquelles on a amputé une totalité d'une certaine quantité et la question porte sur la partie restante. Ça va pour tout le monde ? Donc ça, c'est l'analogie de substitution de la soustraction. Comme je vous le disais, qu'on travaille avec des élèves d'école primaire, avec des étudiants à l'université ou avec des enseignants, cette analogie de substitution... elle reste présente, c'est-à-dire que ce qui nous vient à l'esprit, ce sont des situations comme celle-ci. Alors, on pourrait se dire, en fait, soustraire, c'est vrai que c'est avant tout cela, et après tout, tout va bien lorsqu'on a cette conception. En fait, cette conception est très très parcellaire et complètement insuffisante pour aborder la soustraction. Léo a 5 billes au début de la récréation, à la fin de la récréation il en a 8, combien de billes a-t-il gagné pendant la récréation ? Vous voyez que c'est un problème, je pense que tout le monde sera d'accord que c'est un problème dans lequel on n'a fait que gagner, d'accord ? Et puis je pense que tout le monde sera d'accord aussi que sur le plan mathématique c'est un problème de soustraction. Pourtant il se trouve que presque personne n'a proposé ce problème d'emblée. D'accord ? C'est pas un problème comme celui-là qui est d'abord venu à l'esprit. Alors, vous voyez à quel point, si on se rend compte que pour un adulte qui est lui-même dans l'éducation, on a un chemin à faire pour construire une situation comme celle-ci, mettons-nous à la place d'un élève de CP, où on est en train de chercher à lui faire comprendre que des problèmes dans lesquels on cherche ce qu'on gagne, ce sont des problèmes dans lesquels où on peut résoudre par une soustraction. Et pire encore, qu'on va essayer de lui faire comprendre qu'un problème où on cherche ce qui reste et un problème où on cherche combien on a gagné, ça se résout par une même opération. D'accord ? Donc vous voyez que ces analogies de substitution, elles sont extrêmement puissantes. Elles sont extrêmement puissantes parce que, contrairement aussi aux idées qu'on a parfois de justement liées aux préconceptions des notions mathématiques, on a l'illusion qu'une fois qu'on a suivi l'enseignement, ces préconceptions disparaissent. En fait, vous voyez que les analogies de substitution ne disparaissent jamais, elles sont extrêmement robustes, et il n'y a d'ailleurs aucune, je ne sais pas comment dire, culpabilité de compétence de quelque manière à avoir, parce que ces analogies de substitution, elles fonctionnent, en fait, parce que la façon dont les concepts se développent dans l'esprit humain sont autour de prototypes, donc c'est tout à fait normal que ces prototypes restent vivaces, y compris lorsque on a soi-même évolué sur le plan des connaissances et des notions mathématiques. Mais la difficulté particulière pour l'enseignement, c'est que pour les élèves, leur conception de la notion mathématique est complètement confondue avec l'analogie de substitution, et donc il y a tout un chemin qui est nécessaire pour aller au-delà de cette analogie de substitution. Donc, on a cet exemple où on cherche ce qu'on gagne, mais surtout, en fait, si vous regardez, tout à l'heure j'ai fait allusion à cette typologie des problèmes arithmétiques à une étape qui a été développé par Gérard Vernu en France et par d'autres chercheurs aussi aux États-Unis à peu près à la même époque. En fait, des problèmes de soustraction, il y en a toute une flopée. D'accord ? Parce qu'il y a ceux où on cherche combien on a gagné, il y a aussi ceux où on cherche combien on avait au départ, il y a aussi ceux où on cherche combien on a de plus que, il y a aussi ceux où on cherche combien on a de moins que, il y a aussi ceux où on cherche quel est l'écart entre un tel et un tel. Et en fait, figurez-vous que les problèmes qui sont compatibles avec l'analogie de substitution de la soustraction, dans la typologie, dans ces typologies de problèmes, eh bien, on a ici 11 problèmes différents de soustraction et l'analogie de substitution, elle concerne un seul de ces 11 problèmes. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, notre esprit nous oriente vers une situation parmi 11 situations possibles. Et ça veut dire qu'un élève qui reste avec son analogie de substitution de la soustraction comme seul modèle, en fait, il parcourt, entre guillemets, même pas 10% des situations possibles. D'accord ? Donc, on n'est pas en train de parler de détails, de sophistication. Hein. On est vraiment en train de parler par rapport à l'ensemble de ce que constitueraient les situations de soustraction, l'analogie de substitution, elle rend prisonnier d'une certaine manière d'une toute petite partie. Et ce cas de la soustraction illustre à la fois la facette favorable et la facette défavorable des analogies, parce que ces analogies en fait sont extrêmement précieuses, parce qu'elles permettent de rentrer dans une notion, elles permettent d'avoir une première représentation d'une notion, et en ce sens, elles sont d'une certaine manière indispensables. Et de toute façon, il n'y a aucun moyen de s'en prémunir au sens fort du terme. C'est-à-dire que vous pouvez, grosso modo, introduire la soustraction de toutes les manières possibles. On ne fera jamais disparaître la force de cette analogie de substitution pour une raison très simple, c'est que le langage, lui, porte ces analogies de substitution. Si vous ouvrez un dictionnaire et que vous cherchez le mot soustraction, eh bien, vous verrez qu'il a un sens extra-mathématique et que ce sens extra-mathématique correspond à l'analogie de substitution. Donc, ce n'est pas juste une question de quelles situations sont introduites en classe, c'est aussi une question culturelle beaucoup plus vaste. Donc, elles sont là, on ne peut pas les faire disparaître. En revanche, bien sûr, on peut travailler à ce qu'elles ne soient pas les seules présentes sur la scène conceptuelle. Pour l'addition, comme on l'a commencé à le voir ensemble, quelle va être l'analogie de substitution ? L'analogie de substitution, eh bien, c'est chercher le résultat d'un ajout, d'accord ? Que additionner, c'est ajouter. Et probablement, cette analogie de substitution est encore plus forte que pour la soustraction, parce que ça rejoint vraiment une intime intuition que additionner, c'est ajouter. Et comme je vous le disais, il y a essentiellement deux façons d'ajouter qu'on conçoit facilement. La première, c'est on a un état initial, on donne un accroissement, on cherche combien on a à la fin. Et la deuxième, c'est mettre ensemble deux quantités de même nature et chercher la totalité. Ça, ce sont les deux manières d'incarner cette analogie de substitution. Sur la multiplication, qu'est-ce que ça va être du coup, l'analogie de substitution ? Pour la multiplication, quelle va être l'analogie de multiplication ? Oui, tout à fait, c'est l'addition réitérée et c'est l'idée en fait que multiplier, ça va être comme dupliquer quelque chose, la réplication, et puis on va additionner plusieurs fois ce qu'on a répliqué. Et ça, on s'en rend compte, bah, si on demande d'inventer un problème de multiplication, ce qu'on n'a pas fait ensemble, ou de définir l'opération mathématique de multiplication, eh bien, on va se rendre compte qu'on va trouver toujours des situations d'addition réitérée. Et puis, bien souvent, les définitions qui sont proposées, ce sont des définitions dans lesquelles donc, les problèmes proposés, ce sont presque toujours, comme je vous dis, des additions réitérées, des réplications sommatives. Par exemple, j'ai 3 paquets de 10 gâteaux, combien cela fait-il le gâteau en tout ? Pour la division, qu'est-ce que ça va être du coup ? Le partage, et plus précisément, on l'a pas fait ensemble parce qu'on n'a pas le temps, mais ce sont les situations de partage équitable dans lesquelles on cherche la taille de la part. D'accord, c'est ça qui est important. Donc les problèmes typiques, c'est j'ai 20 bonbons que je partage entre 4 enfants, combien chacun aura ? Et cela exclut en particulier toutes les situations qu'on appelle les situations de cotition, dans lesquelles on va se demander combien de fois est-ce qu'on a une valeur dans une autre. Et cela exclut aussi le fait que diviser puisse rendre plus grand, alors que mathématiquement, bien sûr, ça ne pose aucun souci pour une division de rendre plus grand. Alors, les analogies de scénario, on va les introduire sur un exemple. Les analogies de scénario, en fait, ont à voir avec les scénarios qui sont évoqués par les situations problèmes. En fait, vous voyez qu'entre ces deux situations, le seul mot qui a changé dans la consigne, c'est qu'on a remplacé le mot pomme par le mot panier. Et ça évoque des situations très différentes. Et c'est là qu'interviennent ces analogies de scénario, parce que ça signifie que les objets mêmes qui sont présents invitent à certains scénarios, et que ces scénarios, ils vont être plus ou moins compatibles avec certaines opérations mathématiques. Et en particulier, le premier, qu'est-ce qui le rend... Qu'est-ce qui fait qu'il appelle une situation d'addition et... Voilà, tout à fait, ce sont, alors si on veut employer des termes un peu techniques, mais ce sont deux éléments collatéraux d'une même catégorie superordonnée. En l'occurrence, ce sont deux fruits. D'accord ? Ce sont deux fruits, on les regroupe en tant que fruits. Pourquoi j'emploie la terminologie technique ? Bah, tout simplement parce qu'on comprend que la même chose se serait produite si on avait des marguerites et des roses, ou si on avait des billes rouges et des billes bleues. D'accord ? C'est que du moment qu'on a deux éléments qui ont un statut comparable l'un avec l'autre et qui ont une même catégorie superordonnée, ça va inviter un scénario dans lequel on les ajoute ou éventuellement dans lequel on les compare. Donc ça peut être une addition ou une soustraction. Mais dans ce cas-là, ça sera très difficile d'envisager une multiplication ou une division. Et je pense que si je vous avais demandé de trouver un problème de division avec 12 oranges et 4 pommes, ça aurait été une autre histoire, d'accord ? De la même façon, dans le deuxième cas, on a cette fois une relation fonctionnelle entre les paniers et les oranges qui invite à un scénario de distribution et donc qui invite à une division ou éventuellement à une multiplication, d'accord ? Et donc on voit que quand tout à l'heure je vous parlais du lien entre les connaissances extrascolaires et puis les notions mathématiques, on voit que selon les connaissances extrascolaires qu'on a sur le monde et les situations donc, qui sont incarnées par ces connaissances et les opérations mathématiques invitées, eh bien, il y a un lien qui peut être très fort parce que dans le premier cas, par exemple, c'est très difficile d'envisager une situation de division ou de multiplication. Pourtant, je pense que tout le monde sera d'accord avec le fait que la question « combien ai-je de fois de plus d'oranges que de pommes ?» c'est une question entièrement légitime, qu'on s'attend à ce que les élèves en fin d'école primaire soient capables de répondre à un problème comme celui-là, qu'il n'y a rien d'exagéré à attendre ce type de compétence d'un élève, que lorsqu'on s'intéresse à la question de rapport, à la question de proportionnalité, on s'attend à ce qu'un élève soit en mesure de pouvoir se résoudre ce type de problème, combien ai-je de fois de plus d'oranges que de pommes. Et on voit comment, si on reste dans des énoncés avec uniquement les oranges et les paniers, eh bien, on bloque cette possibilité, d'une certaine manière, parce qu'on a cette situation fonctionnelle qui rend l'analogie de scénario facilitatrice et qui ne met pas en position de pouvoir envisager ces situations de rapport. Et ce sont des situations de rapport entre, du coup, des quantités de nature homogène. D'accord ? Donc, pour les analogies de scénario, on a ce même phénomène, hein, qu'elles vont être tantôt facilitatrices, tantôt obstructive, hein, on aurait pu passer encore plus de temps pour les décortiquer, mais vous voyez que c'est différent de l'analogie de substitution, c'est un autre phénomène, mais il y a toujours un rôle très très fort. Alors juste pour qu'on se rende bien compte que analogie de scénario et analogie de substitution, ce sont deux notions qui ne se confondent pas, on va prendre quelques exemples. Si je dis j'ai 3 paquets de 10 gâteaux, combien ai-je de gâteaux en tout ? Est-ce que je suis dans le domaine de validité de l'analogie de substitution de la multiplication ? Oui, parce qu'on est sur une addition réitérée. Est-ce que l'analogie de scénario fonctionne ? Oui aussi, d'accord, parce que des paquets de gâteaux, c'est tout à fait cohérent de les additionner. Donc là, les deux clignotants sont au vert du point de vue du côté facilitateur de ces analogies. Donc, on peut prédire que ce problème sera bien réussi parce qu'on a à la fois sur la substitution et sur le scénario ces facilitateurs. Si on prend le deuxième, j'ai 4 oranges, je reçois 5 pommes en échange de chaque orange, combien aurais-je de pommes ? Cette fois, est-ce qu'on est, par rapport à l'analogie de substitution, je ne vous parle pas du scénario, hein, je vous parle de la substitution. Oui, par rapport à la substitution, ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que c'est une addition réitérée dans laquelle on a 5 plus 5 plus 5, 4 fois. D'accord ? C'est pour chaque orange, on a 5 pommes. Donc, ça fonctionne très bien sur la substitution. En revanche, ça ne fonctionne pas sur le scénario. D'accord ? Parce que, justement, on vient de le voir, hein, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et puis, le troisième énoncé, si un gallon d'essence coûte 1,27 €, combien coûte 0,22 gallons ? Cette fois, c'est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, hein, cette fois, on est bien sur le point plan du scénario, parce que s'intéresser au prix total, connaissant la quantité et le prix unitaire, ça fonctionne bien. En revanche, ça ne fonctionne pas du point de vue de l'analogie de substitution, parce que ce n'est pas une addition réitérée. D'accord ? Vous voyez qu'on peut avoir les différents cas de figure. Troisième cas, les analogies de simulation. Alors, l'analogie de simulation, on va essayer de bien expliquer en quoi elle consiste. L'analogie de simulation, en fait, elle revient à simuler mentalement la situation décrite par l'énoncé. Et parfois elle est facilitatrice, parfois elle est obstructive. Je vous l'ai dit, c'est le cas pour ces trois formes d'analogie. Et donc parfois la simulation facilite, parfois la simulation rend difficile. Et en fait, ici, il y a deux problèmes pour lesquels la simulation facilite et deux problèmes pour lesquels la simulation rend difficile, mène ou ne mène pas à la solution. Alors, prenons le premier énoncé. Nicolas, il va en récréation avec ses 27 billes. Donc, vous l'imaginez en train d'être à la récréation avec ses 27 billes. Et puis, il gagne des billes. Et à la fin, il en a 31. Combien il en a gagné ? Oui, comment je fais pour savoir qu'il en a gagné 4 ? Je compte sur mes mains, d'accord ? 28, 29, 30, 31. Est-ce que j'ai besoin de faire une soustraction ? Non, il suffit que je simule mentalement. Et donc l'analogie de simulation, elle est facilitatrice parce que si je me simule mentalement, j'arrive au résultat. Donc ce problème, en fait, il est facile et il est facile à cause de l'analogie de simulation. Le deuxième, Nicolas, il va en récréation avec ses 31 billes et pendant la récréation, il perd 27 billes. On veut savoir combien il en reste. Et là, si je veux simuler, qu'est-ce que je fais ? Voilà, j'ai un problème si je veux simuler, d'accord ? Parce que il y en a trop à enlever. Je pars de 31, j'essaye d'en enlever 27, je suis perdu. Donc la simulation mentale, elle rend plus difficile la résolution. Le troisième, il va en récréation avec 4 billes, il en gagne, et maintenant il en a 31. Elle dit quoi la simulation mentale ? C'est dur aussi, d'accord ? Parce que aller de 4 à 31 mentalement... 5, 6, 7, 8, etc. On n'y arrive pas, on se perd. Et puis le dernier, il va en récréation avec 31 billes. Pendant la récréation, il perd 4 billes. La simulation mentale est facile, d'accord ? Vous voyez que pourquoi c'est une nouvelle situation ici, c'est que, en fait, on peut à la fois perdre ou gagner. C'est pas ça qui est crucial. On peut aussi avoir un grand nombre ou un petit nombre. C'est pas ça qui est crucial. Ce qui va être crucial, c'est la conformité avec... la simulation mentale. Alors, juste pour voir, quand on donne ce problème en CE1, vous voyez les résultats. On a deux problèmes faciles, deux problèmes difficiles, et ça correspond exactement à ce qu'on a vu du fait de la simulation mentale. Okay ? Donc, ça sera le... Donc, pour conclure, hein, vous voyez les trois formes d'analogie, substitution, scénario, simulation, qui peuvent conjuguer leurs effets dans un sens ou dans un autre, et qui constitue donc le cadre, hein, qu'on a mentionné au début de l'intervention.